Allons-y, bien ouvert. Bienvenue à tous. Bienvenue au public aussi.
Je vous fais passer la feuille de management et ainsi que le procès verbal de la séance du 25 mars envoyé par M. Contard. On n'a pas eu de remarques particulières. Donc je vous laisse signer le procès verbal.
Pour la séance d'aujourd'hui, qui accepterait d'être secrétaire ?
Moi, je vois.
Oui, moi aussi.
Merci.
Oui, monsieur Andrieux.
Oui.
Monsieur Andrieux est absent et donne procuration à madame Grenier. Vincent va arriver avec un petit peu de retard.
Ah, oui.
On a prévu par la séance 10-15 minutes.
Merci. On démarre par le premier point du jour.
Par contre, Gabriel, il y a la démission de Jérémy Faucon aujourd'hui.
Oui,
il a dû par la lettre.
Je viens de voir, j'ai même pas eu le temps de lire le courrier. Tu viens de me le déposer sur le bureau.
Hein. Oui.
Oui, mais il démissionne de fait.
Moi, je peux aller chercher le courrier éventuellement.
Bah oui, je pense que c'est.
Je viens de l'avoir, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai eu juste. Oui. Quelques secondes avant de démarrer.
Oui, mais je pense que c'est important, comme en plus Guillaume le suivant de la liste est là.
Je vais chercher. C'est ouvert ?
Oui, c'est ouvert, à gauche.
Courrier à l'instant sur le bureau. Donc apparemment une lettre reçue en mairie donc aujourd'hui. Hein,
voilà.
À l'instant. Donc démission du conseil municipal de M. Jérémy Faucon. Voilà.
Tu peux lire la lettre ?
Je peux le lire sans problème. Je vais la découvrir en même temps que vous. Hein. Bon, monsieur le maire. Nous avons été élus en 2020 avec une assez nette majorité. La confiance dont nous avons été élutaires n'était cependant pas un acquis. Nous méritions d'être constamment honorés en respectant nos engagements. Cela commençait par le respect des engagements pris envers sa propre équipe, la mise en avant et la personnification systématique de la fonction du maire était l'antithèse de ce que nous étions donné comme ligne directrice pendant la campagne électorale. Tout le monde ou personne. Or, c'est bien le contraire qui se produit. La démonstration en est faite assez régulièrement. Une autre ligne directrice que nous étions fixée était le travail collaboratif avec l'ensemble des élus. Force est de constater qu'après 2 ans et d'innombrables rappels, ce n'est pas ce qui est en place. Les citoyens rivérois ont élu 15 conseillers municipaux et n'ont pas voté pour un même président de tout pour les autres.
Je n'ai pas bien compris la dernière phrase.
Donc ils n'ont pas voté pour un même président de tout pour les autres. Le fonctionnement autocratique, l'absence de travail d'équipe avec toute l'équipe, les décisions prises sans concertation, les petits arrangements avec la loi républicaine sont autant d'entorses à nos engagements. La volonté de transparence de l'action municipale, vendue comme une véritable pierre angulaire avant l'élection, n'y aura pas survécu non plus. Je constate aussi que l'attention qui devait être portée au personnel communal n'est pas à la hauteur de l'enjeu, que de nombreux agents de différents services, dont sont dubitatifs sur la méthode de gestion employée. Mais aussi et surtout que certains sont aujourd'hui en souffrance. Nous avons vécu deux épisodes douloureux sur ce sujet l'année dernière et en début de cette année, il n'y a eu malgré cela aucune amélioration visible. Je suis sincèrement attristé par cette situation, mais il ne m'est maintenant plus possible d'espérer pouvoir honorer mon mandat de conseiller municipal dans les conditions normales qui étaient attendues. Je sais que la plupart des habitants comprendront ma décision et j'aurai plaisir à échanger avec chacun d'eux à chaque fois que l'occasion se présentera. Mon départ est le cinquième de ce mandat. C'est aussi le cinquième dans notre liste. Une démission, c'était déjà beaucoup, mais cinq, c'est beaucoup trop. Surtout que les quatre précédentes n'ont pas semblé provoquer une prise de conscience du problème à la tête de la commune. Donc, pour les raisons évoquées précédemment, ainsi que celles qui ne sont pas énumérées ici, mais néanmoins importantes, je présente ma démission du conseil municipal de Rivière. On fait à Rivière le 20 juin 2022. Bien alors, voilà le courrier que nous découvrons ensemble. Okay. Donc c'est noté, ce sera noté au compte rendu.
Est-ce qu'il veut dire que de fait, le suivant de la liste est conseillé à ce moment-ci?
Le suivant de la liste, à partir du moment où la démission est acquise, est intégré. Donc après, effectivement, il y a une démarche d'officialisation, par courrier officiel.
Non, ce n'est pas obligatoire. Il est conseillé au moment où la démission est acquise.
D'accord.
Donc s'il est conseillé, il doit participer au conseil municipal.
Que le prochain de la liste, c'est M. Guillaume Piguel, ici présent.
D'accord.
Et si c'est bien comme ça, donc je pense que
c'est ça.
La règle et la loi. Guillaume, tu peux prendre place.
Ouais, Jérémy est passé me voir tout à l'heure pour m'expliquer la situation. Donc c'est pour ça que c'est moi qui est venu déposer le courrier, étant donné qu'il m'a dit, bah voilà, ma décision personnelle, t'engages toi, enfin moi, bah voilà.
Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où la décision est prise en compte, reçue.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il est venu me voir et que j'ai déposé le courrier. Et...
Moi je t'invite à prendre place si tu es
d'accord.
Hein.
Pas de soucis.
À table. La place. Guillaume, bienvenue.
Merci.
Bienvenue au conseil. À tête des conseils. Bienvenue à cette réunion.
Gabriel.
Oui.
Moi, honnêtement, je suis choqué, là, encore une fois, du courrier. Surtout sur le fait qu'il insiste. En fait, sur la cinquième démission. En fait, tu ne réagis même pas. Tu réagis même pas.
Pas réagir à chaud. L'objet du conseil, c'est d'avoir tout traité des sujets du conseil.
C'est
une information toute fraîche que je viens de recevoir. Donc, voilà, je ne vais pas forcément réagir tout de suite. Hein. D'accord.
Mais sur les autres démissions, tu n'as pas spécialement réagi non plus. Mais c'est bien froid.
C'est du respect. Chacun est libre de rester, de démissionner. Bien de démissionner.
Voilà, donc.
Quoi dire de plus? Pas envie de faire des commentaires. J'ai plutôt envie d'avoir de traiter les sujets qu'on doit traiter aujourd'hui dans le conseil municipal. Donc moi, je vous propose d'aborder le premier sujet, qui est le sujet de la journée de solidarité. Ensuite, on passera au sujet du passage aux 1607 heures. Je propose à Florent de nous rappeler à la fois la démarche et en quoi ça consiste.
Oui, donc la journée de solidarité est totalement liée avec le passage aux 1607 heures. Donc en fait, il faut comment dire délibérer sur comment la journée de solidarité, la journée de solidarité sera accomplie. Donc soit le travail d'un jour férié, autre que le 1er mai, le travail d'un jour de RTT ou toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillé à l'exclusion des congés annuels. Comme ça a été fait, il y a eu l'avis du comité technique une première fois, il y a eu de toute façon vous avez eu les deux PV. Et vu qu'on a eu le retour, un avis défavorable de la part des syndicats, il fallait attendre un deuxième PV, donc celle du 5 avril, enfin, celui du 5 avril 2022. Et donc vous avez eu aussi le projet de délibération, donc il était proposé en fait que le travail de 7 heures, enfin le travail de 7 heures supplémentaires, soit fractionné en heures, c'est-à-dire que chaque agent peut faire une heure en plus comme il le souhaite pour qu'au final ça soit au fil de l'eau il égrène ses 7 heures supplémentaires. Donc voilà ce qui est proposé, bien sûr pour les agents à temps partiel c'est pour ratiser etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous soumet le vote donc de cette façon, savoir le travail de 7 heures fractionné en heures et tout au long de l'année, pas une journée particulière.
Je vois que les trois syndicats du comité technique ont été défavorables. C'est rare en général, c'est enfin, assez pour savoir que c'est UNSA et puis CGTFO aussi. D'ailleurs, tu fais non, Loïc, mais je vois à Saint-Omer, par contre, le président sollicite l'avis du comité technique sur la mise en place du RIFSEP au sein de la collectivité. Là, par exemple, sur le régime indemnitaire, ils ont modifié leur projet et après, il y a un avis favorable. Là, il n'y a pas eu de... Et pourquoi les syndicats sont tous défavorables? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme raison?
Que c'était à la charge de l'État, en fait. Que c'était pas à la collectivité de prendre en charge, c'était à la charge de l'État. C'est dans le premier PV, dans le PV du mois de mars. Je vais vous le ressortir.
Non, je ne suis pas à la peine. C'est bon. Mais réexpliquez-moi un peu mieux. En fait, c'est à la charge de l'État.
Je vais reprendre le texto parce que je ne l'ai plus en tête. Mais quand je l'ai revu ce matin, c'était à la charge de l'État.
Ce qui veut dire, Gabriel, ça veut dire quoi à la charge de l'État?
C'est pour les syndicats, ça voudrait dire que ce n'est pas la collectivité de supporter l'augmentation, enfin la charge de solidarité. Puisque la journée de solidarité, ça va payer. Pour les personnes âgées.
D'accord, donc, oui, en fait, c'est sur le principe.
Sur le principe, en fait, sur le principe, ils ne sont pas d'accord parce que c'est-à-dire que pour eux, c'est à l'État, c'est une dépense à prendre en charge par l'État. D'accord. Et pas à la collectivité.
D'accord, comme ça, c'est compensé.
J'ai dit non, c'est parce qu'en fait, sur ces modèles de délibération, je ne suis pas arrêté, je crois qu'ils sont quasiment tous pas d'accord pour ce motif-là. Quand on regarde un peu l'ensemble des communes, ils ont tous un avis commun à celui-là, en fait.
D'accord. Oui, tu as raison sur l'organisation du temps de travail, en effet, ils sont toujours défavorables à l'unanimité.
Voilà. Donc je vous lis, les LUFO indiquent que même si la loi est ainsi faite, ils considèrent qu'il n'appartient pas aux agents territoriaux, mais bien à l'État, de financer les actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Avis défavorable de principe.
Mais par contre, les collectivités sont strictement obligées d'imposer cette journée de solidarité. Oui.
ce premier sujet est soumis, donc une première délibération, hein, soumis au vote. Alors, selon la formule, vas-y.
D'abord, c'est si vous êtes pour que le travail donc, de 7 heures soit fractionné en heures et au fil de l'eau. Donc, qui est pour?
Et qui est contre? Qui s'abstient?
Deuxième sujet, hein, donc c'est le passage officiellement donc, au qu'on appelle les 1607 heures. Donc pareil, tu peux nous rappeler la démarche.
Bah, c'est la même chose. Donc en fait, le nombre, les 1607 heures sont calculées. Donc le nombre de repos hebdomadaires, donc c'est 104 jours, congé annuel 25 jours, jours fériés 8 jours, donc un total de 137 jours. Donc il y a 228 jours travaillés. Donc il y a 1600 heures plus les 7 heures de cette journée de solidarité qu'on vient de voter, donc ça fait 1607 heures. De toute façon, vous avez eu aussi le projet de délibération. Donc pareil, ça a été soumis au comité technique les deux fois en même temps. La suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire, ce qu'on appelait souvent les jours du maire. Ça n'existe plus. Donc c'est 25 jours pour un temps plein.
Pourquoi ça n'existe plus, hein?
Ben, c'est la loi.
C'est
la loi. C'est pour ça que en fait, les 1607 heures, c'est cette suppression des jours de congés qui ne sont pas prévus dans les textes réglementaires. Donc c'est du coup les 25 jours de congé. Et donc il y a eu des cycles de travail proposés. Donc la liste des services concernés et le cycle de travail correspondant. Donc les services administratifs, le cycle hebdomadaire serait de 35 heures par semaine du lundi matin au samedi midi, avec des bornes quotidiennes de 8h-18h. Les services techniques, donc espace vert, bâtiment, entretien bâtiment matériel, ça serait donc le cycle de travail de temps annualisé, comme on a déjà voté la délibération. Donc c'est le cycle été du 1er avril au 30 septembre, c'est 38 heures semaine sur 4 jours et demi. Le cycle hiver, c'est du 1er octobre au 31 mars, 32 heures semaine sur 4 jours. Et les bornes quotidiennes, ce serait 8h-18h. Pour l'ATSEM, les agents de ces services seront soumis à un cycle de travail annuel de 1607 heures. Basé sur un année scolaire avec un temps de travail annualisé. Donc les bornes quotidiennes, ça serait aussi 8h-18h. Pour tout ce qui est service garderie, cantine, technique et fonction d'ATSEM, le cycle hebdomadaire variant de 20h à 32h sur 5 jours. Bornes quotidiennes de 7h à 19h. Et pour les services de l'agent postal communal, le cycle hebdomadaire serait donc de 8h sur 2 jours et demi, avec les bornes de 9h à 13h. Et donc en plus d'instituer la journée de solidarité, donc de fractionner en heures, on la retrouve ici.
Bon, les bornes horaires de 8h-18h n'est pas au préjudice d'une variation en fonction de la canicule, pouvoir commencer plus tôt pour les agents, ce qui peut être très arrangeant. Quand il fait très chaud, c'est pas une affaire d'être en pleine journée, il vaut mieux commencer plus tôt. Par exemple, pour les espaces verts, c'est évident. Voilà, mais je suppose qu'il y aura cette souplesse tout de même.
Souplesse, oui. C'est un sujet qu'on avait cité, hein, que tu avais cité.
Oui, exactement.
Une réunion précédente.
Mais quand on dit borne, c'est ça qui me...
Oui. Il y a quand même une souplesse. Hein. Mais bon, à creuser cette souplesse, si c'était quelque chose qui était jugé comme imposé, indésirable par les gens.
Il y a beaucoup de bêtises qui le font.
Les gens le réclament. Alors, si les gens n'étaient pas d'accord, non, il y a la borne. Oui, il vaut mieux.
Voilà pour les 1607 heures. Puis après, vous avez donc En cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit, mais ça c'est comme maintenant. De toute façon, vous avez eu le projet de délibération. Je vous ai dit l'essentiel, ce qui est surtout important. Et normalement, cette délibération devait être entrée en vigueur au 1er janvier 2022. De la mise en place, etc. On a fait maintenant. Donc voilà, pour la présentation. Merci. Donc qui est pour adopter cette CM1607R?
Oui, c'est vrai que ça peut être. Guillaume se demande de là à partir au début.
On débarque, mais ils en disent quoi les agents tout seul?
On a fait des réunions d'information.
Bon, il n'y a pas, pas eu de. L'avis.
Non, mais bon.
Ils ont donné
oui, d'accord, on en a reparlé.
Ils ont donné leur avis là-dessus.
On en a reparlé le vendredi dernier. Là. On a fait tour de table. On est d'accord.
Ouais, ils trouvent ça bien. Ils trouvent ça bien.
Non, en tout cas, il n'y a pas eu de réclamation. Il n'y a pas eu de demande particulière.
Okay, hein.
On a pris le temps de revenir tout le monde, faire le tour de table, demander à la vie de chacun sur ces sujets-là. Donc, voilà.
La scène aspect réglementaire aussi. Oui, non,
pas
la réglementation, après il y a la vie des gens.
Mais pas l'organisation, pas réglementaire. Non. Les cycles de travail ne sont pas réglementaires.
Donc qui est pour le passage au 1607 heures comme je vous l'avais présenté. Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Merci beaucoup.
Donc le sujet suivant, décision modificative au compte numéro 7311.
Oui.
Ah, c'est pareil. Nous expliquer un peu
le compte 7311, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller regarder, c'est le compte des impôts, des taxes, enfin la recette des impôts locaux. Et donc on a eu le courrier de la trésorerie donc, qui nous demande de faire une décision modificative pour augmenter nos recettes à ce compte-là de 14 752 euros. Voilà. Donc, qui est pour cette modification budgétaire? Voilà. 15 pour. Enfin, qui est contre? Qui s'abstient?
Sujet suivant, acquisition de bancs de touche pour le terrain de foot. Donc, Louis, tu avais dû faire un message explicatif. Pour peut-être rappeler un peu en synthèse de quoi il s'agit. Pourquoi on en arrive à une demande comme celle-là.
Effectivement, il y a une vérification qui est faite du terrain par la Ligue Nord-Pas-de-Calais, puisque le club de Rivière étant attaché à une fédération. Les installations sont reconnues et donc sont obligées de faire l'inscription à une vérification. Il y a une catégorisation des terrains en fonction des types d'installations. C'est une fois tous les 10 ans. Là, on a le terme de la vérification. La vérification a eu lieu au mois de mai. Et après l'avis de la commission, il s'avère que le terrain, aujourd'hui, on a une remarque, c'est qu'on a une obligation d'augmentation des bancs de touche pour garder la catégorie du stade. Cette obligation nous impose de passer les bancs de touche à 2,50 m. Ils sont à 2 mètres, je crois, c'est ça ?
Moi, ils sont même à 1,80 m.
1,80 m, aujourd'hui. Donc, ils nous obligent à les passer à 2,50 m. Il faut savoir que les bancs de touche sont là depuis plusieurs années et étaient déjà là à l'ancienne vérification. Ça veut dire que la réglementation a évolué entre les deux vérifications. On a fait plusieurs devis, on vous les a envoyés. C'est pour ça aussi qu'on veut se prémunir aussi d'un prochain investissement par rapport à ça, et donc de porter directement des bancs de souche à 3 mètres. Il y a première explication, et deuxième explication, c'est qu'entre les 2,50 m et 3 mètres, tous les fournisseurs ne font pas de 2,50 m. Voilà, en sachant que voilà, l'idée c'est pas non plus de jeter les anciens bancs de touche. Alors sur les deux bancs de touche, on va en récupérer un pour faire le banc de touche pour le délégué terrain. On a un banc de touche pour l'équipe qui reçoit, un banc de touche pour l'équipe adverse. Normalement on doit prévoir quelque chose pour pouvoir accueillir le délégué de terrain dans de bonnes conditions. Aujourd'hui on n'en a pas. Donc là c'est l'occasion de récupérer les anciens bancs de touche pour ne pas les jeter et les mettre pour le délégué de terrain. Le deuxième banc de touche ne sera pas jeté aussi, il sera mis à l'extérieur de la main courante pour les spectateurs. Côté.
Voilà. Vous avez reçu quand le courrier?
Alors la vérification a été faite mai et elle s'est passée en commission. En fait, le monsieur vient en fait sur le terrain faire la vérification. Lui il fait son rapport, le rapport passe en commission au niveau de la Ligue. La Ligue nous envoie un courrier. Le courrier.
D'accord, il est venu, vous avez été averti?
Non, parce qu'il a été fait alors, en même temps que Pascal était présent. Et il a fait ses mesures et il ne nous a pas dit tout de suite. On était étonné de voir le courrier. On savait pas. On était étonné de savoir que. En sachant que c'était la même personne qui avait fait l'ancien contrôle. Ouais,
ça, c'est souvent l'idée, il va se refaire. Même avant d'avoir le courrier.
Ouais, c'est ça. Mais, je pense que. Après, j'ai pas eu le fin de l'histoire, mais je pense que celui qui a fait la vérification, je pense que pour lui, ça passait. Ouais. Et en fait, il a fait ses mesures comme d'habitude. C'était lui qui avait fait l'ancienne mesure. Et puis, en commission, ils ont dit bah non, on va toucher les plus bons. Et puis. C'est passé comme ça, je pense que c'est pour ça qu'on a pas eu l'info avant. Donc, voilà. Et il y a eu aussi une modification, on a dû mettre un arrêté, ça c'est nouveau aussi, un arrêté sur la capacité d'accueil du public. Mais ça c'est une évolution qui a été prise aussi, et tous les clubs aux alentours ont eu le même tour. Donc voilà, il y a un arrêté qui a été porté aussi également. Sachant que voilà, par rapport à ce courrier-là, on a une obligation de faire les nécessaires avant fin août. Sinon, le terrain sera plus homologué dès septembre pour les rencontres officielles.
Parce que là, le premier courrier, un courrier qui est daté du 20 avril, c'était quoi celui-là? Parce que là, ils disent déjà que...
Le 20 avril, c'est celui-là, alors. Et le contrat, il était fait quand?
Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà, Charles. Nous vous prions de bien vouloir trouver si après la décision de la Commission régionale des terrains et installations sportives prise au cours de la réunion du 22 mars... Donc cette installation est classée en niveau T5 PN jusqu'au 26 du 3. La commission prend connaissance de la demande de classement au niveau T5 au regard des éléments transmis. Donc elle prononce le maintien de classement de l'installation jusqu'au 22 mars sous réserve à la transmission d'un arrêté d'ouverture au public ou d'une attestation administrative de capacité avant le 31 du 5. Mmh. Et donc ce courrier-là, il est du 20 avril. Et donc ils disent déjà... oui, que les éléments, que les aménagements suivants sont à réaliser avant le 31 août.
C'est ça. Et en fait, la commission a lieu là début mars. C'est passé en commission, la vérification. C'est passé en commission. La commission, ils ont fait un courrier à la date de la commission, ça va être le 20 avril, et nous, on l'a reçu début mai. C'est ça, je crois.
Non, on l'a eu par mail, par M. Turpin.
Par M. Turpin, on l'a eu début mai. Par mail.
Début mai, par mail.
Ouais.
Pourquoi vous ne l'avez pas transmis en même temps?
Ce courrier?
Ouais.
On n'avait pas de devis non plus.
Non, mais de simplement ce que la commune risquait de devoir investir.
Enfin, moi j'ai souvenir qu'au début, quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été dit lors de l'audit sur le terrain, hein, c'est le cas de dire, qu'on a compris après par le courrier. C'est que moi j'étais un peu dubitatif, hein. J'ai demandé un peu d'aller-retour en disant mais c'est quand même un peu fort parce qu'on va nous imposer des travaux, on a un délai court, travaux fin août, et puis voilà, vous ne seriez plus habilité. Donc je pense que c'est ça qui a fait un peu passer du temps, en tout cas pour la compréhension de l'exigence
réglementaire. On peut comprendre aussi, nous.
Mais non, mais moi je souhaitais comprendre, mais d'abord avec les gens qui connaissent le sujet, moi je n'y connais pas grand-chose maintenant. C'est qu'avec Pascal, avec toi, entre autres, en l'occurrence, hein, pour la partie foot. Non, mais c'était évoqué avec Vincent, avec d'autres aussi.
On aurait dû être averti au mois de mars, comme quoi il y avait un contrôle pour le terrain. On aurait dû voir dans notre conseil, on n'avait rien.
Quoi?
Dans notre conseil, tu pouvais lui dire qu'il y a un. Oui. Normalement, t'es bien.
Oui, sans savoir qu'il allait avoir un problème. En fait.
Savoir qu'il y avait un risque. Là, il parle d'une date butoir. On sait, là, en dernier conseil, là. Bon, ça fait quoi, 13-14 fois que je la remarque. Bon.
Après, la diffusion, de, quand on a compris qu'on était dans l'obligation d'eux. Après, je pense que rapidement, on a dit qu'il faut vite savoir où on met les pieds en termes de dépenses. Et voir si on serait capable de trouver une solution de financement pour ne pas pénaliser.
C'est ça. Voilà. Mais il y a d'autres gens qui s'y connaissent dans tous ces trucs de foot. Ben Vincent avait été averti.
Sur le bon coup, je crois.
Bon, supposons que le conseil municipal ne sert pas à ça non plus. Donc.
Alors, par contre, au niveau des devis, moi ce que j'ai compris, c'est que les devis tels qu'ils ont été. Retourner, on a trois devis, ils ne sont pas complets. Hein. C'est ça en fait, il manque un petit quelque chose, c'est ce que j'ai compris.
On avait fait sur les trois devis que j'avais envoyés, sur le devis le moins cher qui est fait par le TIPCOM, on attend une actualisation du devis par rapport au type de matériel demandé.
Pourquoi sur celui-là il y a un banc de touche de 2 mètres alors qu'on parle des bancs de touche de 3 mètres tout à l'heure ?
En fait, celui-là, c'est, si tu regardes, tu as trois bancs de touche, c'est parce qu'il a inclus un banc de touche dirigeant, mais on n'a pas besoin. Tu sais, celui qu'on va récupérer justement pour mettre entre les deux. Et du coup, dans le devis, il est intégré, mais celui-là, on ne va pas le prendre. C'est pour ça qu'il est en touche de 2 mètres.
Voilà. Ce qui veut dire que les devis en question vont être réactualisés, légèrement modifiés. Donc on n'a pas le montant définitif. En fait, aujourd'hui, ce soir, c'est plutôt pour soumettre cette notion d'obligation. On comprend tous que. Moi, au début, j'étais un peu dubitatif, cette obligation-là. Enfin, j'y croyais pas trop. Je pensais qu'on allait pouvoir échapper un peu, avoir du délai supplémentaire. C'est ça, en fait. Hein. Parce que c'était pas prévu, ça, comme investissement dans nos lignes budget. Hein. Donc, moi, ça m'a un petit peu embêté. Bon, après, clairement, on peut trouver une solution au niveau des lignes d'investissement, parce qu'on ne va pas forcément faire toutes les lignes. Ça, c'est un sujet qu'on peut aborder après. Et malgré tout, il faut réutiliser les devis. C'est dans quel moment. Et après, c'est surtout pour en discuter de manière à avoir l'accord de principe pour dire on va être obligé de relancer les devis et puis prendre le meilleur rapport, je pense que plutôt prix. Hein, parce que je pense que a priori ça se vaut, à moins qu'il y ait d'autres devis à faire complémentaires. Hein. J'avais vu un message qui avait fait un message pour dire de consulter quelqu'un d'autre.
Non,
j'avais
pas d'autres.
Ah oui, Décathlon, c'est ça. C'est faut qu'il y avait
j'avais sollicité aussi.
Proposé.
Il faut qu'ils soient homologués.
Ah ouais, on en avait parlé quand même, de trouver une autre solution.
Alors, je ne sais pas, mais
il y a des normes, de toute façon. Il y a des normes à respecter, je pense.
Il y a beaucoup de sociétés qui s'occupent de ce genre de matériel.
Il y en a, mais pas tant que ça, quand même.
Non, disons que vu l'investissement, ça vaut le coup de vraiment, même si ça se joue ça jouera à 1 000 euros, ça serait intéressant.
Sur les trois devis, quand on regarde sur les trois devis qu'on a fait, les deux principaux qu'on a fait, c'est de l'achat public. C'est-à-dire qu'ils font de tout. C'est parce qu'ils étaient dans le touche, ils font de tout. Donc c'est pour ça que les tarifs sont plus élevés.
Oui.
La KeepCom, c'est un équipementier spécialisé dedans, qui est basé à Noyelles-sous-Lens. Donc lui, il est plus spécialisé dedans que les deux autres. Là, c'est de l'achat global. C'est pour l'achat public, donc c'est-à-dire que tu peux trouver de tout là-bas.
Et même sur, les délais, de toute façon, au niveau des délais, ça se trouve les trois.
Non, là, c'est juste comme si. Tu me commandes pas la question. Hein.
Donc,
sur les deux autres, on sait pas.
C'est dommage de se priver de matchs officiels du début septembre parce qu'on n'a pas pu
se fournir. Les périodes estivales, ça va.
Ah, c'est ça.
C'est que là, il faut plus traîner. Et
donc là,
dès le mois de mai, quand on a 8 ans, on ne l'avait pas vu d'avance. On l'aurait su au mois de mars, on aurait peut-être pu l'anticiper.
Parce que là, on va voter si on vote favorablement. Une fois qu'on aura les devis à jour, il faut qu'on se réunisse à nouveau pour valider.
Voter favorablement sur le principe de l'achat.
Ouais.
Après, on peut se même se fixer peut-être une limite
dépassée,
peut-être, parce qu'il va y avoir une actualisation, au-delà de laquelle, là, il faut
être le plus rapide possible.
Faudrait qu'on provoque une décision. Mais bon, après, moi, je ne sais pas, quel modif, c'est est-ce que ça va coûter 500 euros plus s'il y a 100 euros, bien arrive.
Là, la principale modif qui est, enfin, la modif qui est demandée par rapport au devis qu'ils nous fournissent, c'est qu'ils nous fournissent un devis avec des sièges.
Parce que là, dans le premier.
Donc,
le modif, c'est avec des bancs.
Avec des bancs. Là, c'est des sièges. Les sièges, ça serait plus facilement dégradable que un banc. Et normalement, un banc, c'est moins cher.
C'est moins cher, dans le
sièges.
Normalement.
Ah, ce serait moins cher. Bon.
Normalement.
Ah oui,
quand vous soyez. Les sièges, ça serait plus cher qu'un banc. Là, c'est prévu avec des sièges. Attention, le devis qu'on a reçu.
Et il n'y a pas moyen d'avoir un délai supplémentaire au niveau de la ligne?
Bah là, tu fais pas.
Moi, je pense que si on a fait l'effort de faire des devis, et puis de toute façon, peut-être on ne les aura pas pour le 31. Ils vont comprendre quand même qu'on peut. Parce que eux, ils sortent ça comme ça de leur sac, comme ça, et puis. Puis toi, tu te débrouilles. Voilà.
Est-ce qu'il faut qu'il y ait du stock?
Parce qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, hein, je pense.
Je pense qu'avant l'achat, ce serait quand même bien que vous nous informiez les diff. Voilà.
Oui,
c'est un engagement à prendre, parce que là.
La modification et du tarif.
Voilà, exactement.
Et des livraisons,
ça sent un peu utile.
Et pour l'installation, c'est
des agents.
C'est des agents.
Ah oui,
obligé de faire passer une
Non, il y aura en fait sur les installations qui sont aujourd'hui, si on prend un 2,50 m, on n'en fait rien. Si on prend un 3 mètres, on est obligé d'allonger les dalles de béton. Ouais. Voilà. Et puis on crée une pour le.
Ouais, comme ils font pas 2,50 m.
Non, non, mais ça, de toute façon, il faut prendre 3 mètres, parce que dans 10 ans, on recommence. Enfin, ouais. Ouais. Il faut prendre 3 mètres. Hein. Et donc là, il y aura un rajout de béton. Et puis.
Dans 50, on change de terrain.
Ah oui, non, mais ce que dit Vincent, là, on change de terrain parce qu'il y a des exigences supplémentaires de largeur, de longueur de terrain qui pourraient être impactées. Alors, si, je suppose que ça, c'est ce qui a été évoqué sur le terrain, c'est quoi de le dire quand on est allé regarder l'histoire des bancs.
En fait, effectivement,
moi, ça, je ne savais pas non plus.
Sur la vérification, en fait, qui est faite pour la catégorisation du stade, c'est pas que les bancs touchent, c'est la longueur, la largeur du terrain, les vestiaires, présence de main courante, d'éclairage, de gradins, de place assise ou place debout. Donc en fait, c'est toutes ces vérifications-là qui sont faites, qui sont catégorisées dans un. Et donc là, aujourd'hui, on est en niveau 5, qui correspond au niveau du club. Il faut savoir que si le club gravit des échelons, passe des étapes supérieures, eh ben, la fédération, la ligue, impose que le terrain soit dans telle catégorie. Donc là, aujourd'hui, la catégorie T5 correspond au niveau du club. Si jamais le club est amené. Les seniors, c'est D5, les catégories au-dessus, ça va être D2 ou D1. Donc il y a encore du temps.
C'est
pour ça que je dis qu'il y a encore du temps. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore du temps par rapport à ça, mais c'est des éléments à prendre en compte aussi. Ce qui est tout à fait franc par rapport à l'utilisation que je vois tous les jours, ce qui est même plus inquiétant, c'est plutôt la dimension des vestiaires qui pose plus de problèmes par rapport à ça. Niveau arbitre, il y a une dimension sur le vestiaire arbitre qui doit être minimum. Aujourd'hui, si par exemple on a un match et on a 3 arbitres officiels, on sait que le terrain lui-même n'a pas de souci. Par contre, la disposition des vestiaires ne permet pas de faire une compétition officielle avec 3 arbitres officiels.
Enfin, demain, vous jouez bien, vous allez en Coupe de France sur des tours
plus importants. Ah ben, on a déjà le tour. Coupe de France, il faut savoir on fait 2 tours à Rive.
Et après,
le
centre de repli, c'est quoi?
C'est que tu trouves un club aux alentours. Il y a 2 ans, ça nous est arrivé, on a été joué à Marais, on a demandé à Marais de nous faire porter. T'es obligé, en fait.
Ça, c'est accepté facilement, ça.
Bon, on s'entend bien avec les clubs aux alentours, donc si jamais il n'y a pas de match, ça se trouve assez facilement. Quoi. Après, la Coupe de France. On ne va pas modifier le terrain pour un match de Coupe de France. Quoi.
Paris.
Non. Déjà, si on arrive à ce niveau-là, on aura fini de perdre le match ailleurs. Quoi.
On table sur quel montant, du coup?
On peut donner les fourchettes. Là,
Le devis qu'on avait, là, avec Edouard qui avait évoqué, là, on enlève le bande de mètre, on est à 3 600, 3 700. Les devis au-dessus, pour 2 bandes touches, on est à 5 000. Je pense qu'on peut tabler entre les deux, hein. 3 600 et peut-être même moins, enfin peut-être moins, j'espère.
En sachant qu'il y aura peut-être une petite réduction vu les bancs au lieu des sièges.
Ouais, il y aura peut-être un devis.
Je pense qu'il y aura un peu moins cher.
Prudence, hein.
Enfin bon, là, ça va. Enfin, si on fait aux autres, ça va. 4 000,
voilà. On peut en prendre un plafond de 4 000.
Ouais.
Je pense qu'on est dans le bois, non?
4 000
maximum.
Ouais. T'es sûr?
Oui.
Ouais.
Ah oui.
Oui, je pense que des bancs, là, on était à 3600, on va pas prendre 400, 4000. Je sais pas. Si vous prenez sécurité si à 4500,
si on vote, on sait jamais.
Ouais, on verrait les deux vite.
Donc vous en tiriez quoi comme plafond pour le soumettre à la décision de principe?
Je pense 4500 pour être sûr qu'on verrait les devis.
On a les crédits.
Ah, oui, mais bon, malgré tout, c'est décidé de façon réaliste, hein, sur un truc qui
ça, ça,
tient la route quand même.
Peut-être faut l'évoquer.
Non, c'est
on a l'air de voter au.
Oui, ça.
Donc vous donnez comme montant 4500.
Ouais.
Donc sur la base de refaire faire les trois devis, au moins par ces entreprises-là. S'il y a une autre entreprise qui émerge entre-temps, bah, il y a un quatrième devis, je ne sais rien, mais je crois qu'en tout cas, on a les trois entreprises, c'est bon, celles-là sont ad hoc. On reprend les mêmes pour les faire modifier.
Non, en sachant que les deux devis des hors KIPCOM, ils ont bien fait des bons en fait. C'est leur devis définitif.
Ok. Et puis dans ce cas-là, on enverra les trois devis à tout le monde.
Top, ouais, bien sûr.
Avec le principe qu'on prend le moins cher.
Ouais.
Avec discussion quand même possible, échange possible.
Okay, d'accord. C'est ça qui est soumis à la décision de principe de ce soir. Hein.
Faut voter.
Oui, 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 on l'a mis volontairement pour ça. Hein, idéalement, on aurait voulu avoir le devis final, mais on l'a pas.
Donc, vous êtes qui est pour fixer le plafond à 4500 euros avec une discussion tout le monde.
On récupère la TVA pour
c'est investissement aussi, je crois.
Alors, sur le FCTVA, je sais pas si ça va être récupérable. Parce que sur les équipements sportifs, faudrait que je me renseigne sur le truc. Sur le Lamest, normalement, oui. Mais à voir si ça rentre. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui rentrent et des choses qui ne rentrent pas.
Ouais, je sais plus.
Et je vous avoue que j'ai pas regardé. Mais je vous le dirai.
C'est la demande de subvention de l'association ABCDR. Donc, c'est arrivé. Vous avez eu.
Le 9 juin,
voyez. C'était le 9 juin. Voilà. Je ne sais pas si on avait diffusé quelque chose à tout le monde.
Bon, ben, je ne sais plus ça.
En tout cas, oui. Donc.
Donc on a une lettre de ABCDR datant du 9 juin qui sollicite donc l'octroi d'une subvention communale. Voilà, il n'y a aucun montant de préciser. Ils nous ont envoyé le bilan financier donc, durant l'année 2021. Donc ils ont fait une recette de 1883,38 et des dépenses à hauteur de 1125,54. Donc ils ont un solde créditeur au 6-12-2021 de 1247 ils ont eu un solde créditeur le 06-12-2021 de 1247,28 euros, en sachant qu'ils ont fait plusieurs actions. Ils ont fait 14 juillet, journée du patrimoine, les puces de couturière en novembre, des cours de dessin et puis les adhésions. Voilà.
Ok. Même si une subvention comme ça, on demande que c'était une demande qui n'était pas tombée avant la prise de budget, on en avait parlé hein, quand on avait voté le budget. Effectivement, je pense que c'est recevable et on a la capacité de le passer, n'est-ce pas? Ça, on sait. Donc moi, ce qui est proposé, c'est de donner la subvention comme aux autres associations, comme ça avait été fait le jour du vote du budget. Qui était un montant de
200 euros.
Donc moi je te propose de faire pour rattraper le tir pour l'association ABCDR. Vas-y.
qui est pour la subvention de 200 euros à la...
Il faut préciser pour les gens qui écoutent, quand il y a deux personnes qui se déportent.
Ah, ils ne peuvent pas voter.
Donc, pour les deux parties d'APCF.
Ah, voilà. Oui. Merci. Donc, monsieur Figuel et monsieur Sec se retirent. Donc, qui est pour la subvention à 200 euros?
Sujet suivant. Donc la communauté urbaine a proposé aux communes de prendre un avis sur ce qu'on appelle le projet de SAGE, du SAGE, Scarpamont, SAGE, schéma d'aménagement de la gestion de l'eau. Scarpamont, en fait, ça concerne le bassin versant de la vallée de la Scarpe, la vallée du Gy, la vallée du Prachon, hein, donc c'est ce qu'on appelle la Scarpe Amont. Voilà, donc je pense que Florent avait dû envoyer le courrier du président du SAGE, qui est Thierry Spa. Alors, c'était pas un caractère obligatoire, la vie, mais il a été discuté en bureau de la communauté urbaine en disant que ce serait judicieux que ce soit discuté en amont de l'enquête publique. Parce que l'enquête publique va avoir lieu avant, je pense, vers fin d'année, de manière à faire que tout le monde puisse accéder à toutes ces données publiques et donner un avis officiel. Et donc, ce qui a été proposé, c'est que ce soit exposé, plutôt débattu éventuellement, et donné un avis sur le principe de l'aboutissement de ce schéma d'aménagement de la gestion de l'eau. On dit bien, l'enquête publique dans le texte du courrier qu'on a reçu devrait se dérouler donc fin 2022. Donc ce projet de SAGE, donc, lui, il a été adopté, donc... à l'unanimité par la commission locale de l'eau. Donc, ça s'est fait le 16 mars, donc c'est assez récent, parce que ça, c'est un sujet qui date depuis pas mal d'années maintenant. Moi, je peux vous lire juste peut-être le côté synthèse qui sont dans les documents qui sont accessibles, mais un élément de synthèse, parce que sinon ce dossier-là, c'est quand même très, très conséquent. Le schéma d'aménagement de la gestion des eaux, qu'on appelle SAGE, est un document de planification de la gestion de l'eau. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau à l'échelle locale et cohérente d'un bassin versant. Donc il constitue un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre européenne sur l'eau, qu'on appelle la DCE, et qui doit respecter les orientations et objectifs du schéma directeur de l'aménagement et de gestion des eaux. Donc c'est un document supérieur au SAGE, ça s'appelle le SDAGE. Le SAGE est constitué de deux documents principaux, donc le plan d'aménagement et de gestion durable, PAGD, et le règlement. Hein, pour faire le parallèle avec les documents, même la même type d'appellation qu'un PU. En fait. Alors, ceci vient renforcer donc, certaines dispositions. Une fois le SAGE approuvé par le préfet, suite à l'enquête publique, les décisions de l'administration prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de la gestion durable, c'est-à-dire ne pas être contraire à ses objectifs et orientations. Le règlement, lui, est opposable dans un rapport de conformité, c'est-à-dire qui sous-entend un respect strict des règles édictées. C'est-à-dire, en fait, pour faire simple, et même les PLU, enfin tous les documents officiels, qui font l'objet d'enquêtes publiques aussi, concernent voilà, les règlements à appliquer sur un territoire, devront se conformer dans leurs futures évolutions à ce document officiel qui s'appelle le SAGE. Effectivement, il n'y avait pas encore ce schéma, enfin cette démarche-là officielle aboutie sur tout le bassin versant, sur nos territoires. Donc ça va loin, bien sûr, vous imaginez tout le bassin versant. Donc c'est pas que la communauté urbaine, parce que ça dépasse bien sûr, ça touche pas mal de collectivités, bien sûr, notamment Comdecom ici, beaucoup, Comdecom, campagne de l'Artois, qui est la partie bassin versant amont, entre autres. Donc ça va faire l'objet d'une enquête publique, détaillée. Donc c'est quelques années de travail en amont, effectivement.
Mais c'est, je pense que plus ça va, et ce qu'on, enfin, moi ce que je peux constater hein, avec d'autres éléments de comparaison, c'est que plus les exigences en matière de préservation de la qualité de l'eau de surface et souterraine, et les cours d'eau aussi, sont de plus en plus exigeantes. On a malgré tout, là, je donne mon avis un petit peu plus qualitatif, la grosse problématique, il y a deux grosses problématiques. C'est au sujet de la difficulté d'améliorer la qualité de l'eau dans les nappes, dans nos nappes, hein, puisque les nappes de la craie, on a des réserves d'eau très importantes, hein, qui sont connues donc, très importantes par rapport à d'autres régions, dans le, notamment dans les Hauts-de-France. Par contre, elles sont impactées par les résidus, mais sûr qu'on parle des nitrates, okay, des résidus de pesticides, etc. Et donc ce sont des situations un peu complexes pour petit à petit améliorer la qualité. Les, on a les problématiques aussi sur les cours d'eau. Nous, on a un petit cours d'eau qui s'appelle le Crinchon, qui est un départ de rivière de très très bonne qualité. Mais très vite, tous ces cours d'eau-là, comme la Scarpe, se dégradent. La Scarpe est très impactée, notamment à la région sur Arras, en termes de dégradation, hein, de qualité d'eau. Ça, on sait, et c'est sujet difficile. Il y a une problématique nouvelle qui est très complexe à résoudre, parce qu'on ne voit pas trop comment la traiter à la source. C'est les risques d'inondation et de coulée de boue. Que les uns et les autres vous connaissez, parce qu'on en entend parler parfois de façon un peu catastrophique. On voit un peu le côté extrême du sujet qui est en train d'évoluer pas dans le bon sens, des risques de plus en plus forts. Et ça, c'est un des grands sujets de préoccupation à traiter qui sont mis en avant dans les schémas d'aménagement de la gestion de l'eau, sans avoir de solution idéale, hein, plutôt des solutions, j'allais dire, curatives, essayer de freiner un peu ces phénomènes-là. Et les solutions de traitement à la source, à cas de dire, sont apparemment compliquées et sont très coûteuses. Hein. Pour info, là je donne un peu quelques thèmes sur ce sujet-là. Donc c'est bien que ce schéma d'aménagement de la gestion de l'eau aboutisse depuis quelques années à une enquête officielle qui va s'imposer aux autres documents officiels dont le PLU, mais pas que. Après, l'enquête publique, ou si certains sont intéressés, il y a tous les documents à disposition sur le site. Voilà. Donc, c'est un sujet qu'on voulait aborder un peu avec vous. Après, si quelqu'un qui a une question particulière aujourd'hui.
Donc en
même
fait,
si je ne suis pas capable de répondre.
Hein. C'était quand même important de se rattacher à la CUA par rapport au petit syndicat des eaux qu'on avait. La CUA prend toute l'ampleur de la démarche.
C'est différent, c'est pas lié. C'est pas lié à ça.
Ouais, mais,
c'est pas cette entité-là
qui aurait pris en charge les frais de notre petit système.
Ces sujets-là sont distincts. En fait. Là, c'est vraiment un document un peu comme un PLU. Donc, le PLU, il n'est pas lié à que ce soit un CUA ou une collectivité. Ça dépasse le cadre des collectivités. Dedans, on trouve plusieurs collectivités. La CUA, Campagne de l'Artois, un peu de Auvergne-Tismar. Enfin, bref, ça va même jusqu'au-delà d'Arras. Auvergne-Tismar est touché par ça aussi. Parce que ça va jusqu'au-delà d'Arras, du bassin d'Arras. Donc plusieurs collectivités sont touchées. C'est pas lié à la gestion de l'eau, autant au sens. Voilà. Ça, c'est un autre sujet qui peut être intéressant de débattre aussi. Hein, au sujet de l'intérêt d'avoir ce qui est important aussi. C'est important parce que derrière, on voit tout un tas de compétences qui ne sont pas que des compétences de haut niveau. De la collectivité, c'est lui, mais dans d'autres endroits. Campagne de l'Artois a pris la compétence pour traiter les sujets en matière de coulée de boue, ce que n'a pas fait la communauté urbaine. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les communes de la communauté urbaine, là, nous sommes concernés, la compétence de la problématique des coulées de boue, elle est communale. Mais si on regarde le sujet, au niveau commune, je ne sais pas, tout seul, on ne va pas être seul capable de traiter ce sujet-là. Donc on a besoin effectivement d'avoir une collectivité qui nous aide à trouver des solutions. Ça c'est clair. À aider à financer éventuellement des actions. Ça sera un petit peu au-delà du SAD. Quand ça, je serai officiellement validé en protection. Donc voilà. Soumets l'avis, si vous êtes d'accord.
Qui est pour émettre un avis favorable au sage ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
C'est bon ?